Chapitre 7 Le profil de Napoléon. Aussitôt que le préfet de police, le chef de la sûreté et les magistrats instructeurs eurent quitté l'hôtel de Daubrecq, après une première enquête dont le résultat d'ailleurs fut tout à fait négatif, Princeville reprit ses investigations personnelles. Il examinait le cabinet de travail et les traces de la lutte qui s'était déroulée lorsque la concierge lui apporta une carte de visite où des mots au crayon étaient griffonnés. « Faites entrer cette dame, dit-il. »« Cette dame n'est pas seule, dit le concierge. »« Ah, eh bien, faites entrer aussi l'autre personne. » Clarisse Mergy fut alors introduite et tout de suite, présentant le monsieur qui l'accompagnait, un monsieur en redingote noire, trop étroite, assez malpropre, aux allures timides et qui avait l'air fort embarrassé de son vieux chapeau melon, de son parapluie de cotonnade, de son unique gant, de toute sa personne. « Monsieur Nicole, dit-elle, professeur libre et répétiteur de mon petit Jacques, Monsieur Nicole m'a beaucoup aidé de ses conseils depuis un an. C'est lui notamment qui a reconstitué toute l'histoire du bouchon de cristal. Je voudrais qu'il connût comme moi, si vous ne voyez pas d'inconvénient, à me le raconter, les détails de cet enlèvement, qui m'inquiète, qui dérange mes plans, les vôtres aussi, n'est-ce pas ? » Braville avait toute confiance en Clarisse Mergy, dont il connaissait la haine implacable contre Daubrecq, et dont il appréciait le concours en cette affaire. Il ne fit donc aucune difficulté pour dire ce qu'il savait, grâce à certains indices et surtout à la déposition de la concierge. La chose, du reste, était fort simple. Daubrecq, qui avait assisté comme témoin au procès de Gilbert de Vaucheray, et qu'on avait remarqué au palais de justice pendant les plaidoiries, était rentré chez lui vers 6 heures. La concierge affirmait qu'il était resté seul et qu'il n'y avait personne à ce moment dans l'hôtel. Pourtant, quelques minutes plus tard, elle entendait des cris, puis le bruit d'une lutte, deux détonations et de sa loge, elle voyait 4 individus masqués qui dégringolaient les marches du perron en portant le député Daubrecq et qui se hâtaient vers la grille. Ils l'ouvrirent. Au même instant, une automobile arrivait devant l'hôtel. Les 4 hommes s'y engouffrèrent et l'automobile, qui ne s'était pour ainsi dire pas arrêtée, partit à grande allure. Mais n'y avait-il pas toujours 2 agents en faction ? Demanda Clarisse. Ils étaient là, affirma Braville, mais à 150 mètres de distance, et l'enlèvement fut si rapide que malgré toute leur hâte, ils ne purent s'interposer. Mais ils n'ont rien surpris, rien trouvé ?
Rien, ou presque rien, ou ceci tout simplement.
Qu'est-ce que c'est que cela ? Un petit morceau d'ivoire amassé à terre. Dans l'automobile, il y avait un 5e individu que la concierge de la fenêtre de sa loge vit descendre pendant qu'on hissait Daubrecq. Au moment de remonter, il laissa tomber quelque chose qu'il ramassa aussitôt. Mais ce quelque chose dut se casser sur le pavé du trottoir, car voici le fragment d'ivoire qu'on a recueilli. « Mais, dit Clarisse, ces 4 individus, comment purent-ils entrer ?»«
Évidemment, à l'aide de fausses clés, et pendant que la concierge faisait ses provisions, au cours de l'après-midi, et il leur fut facile de se cacher, puisque Daubrecq n'avait pas d'autre domestique. Tout me porte à croire qu'ils se cachèrent dans cette pièce voisine, qui est la salle à manger, et qu'ensuite, ils assaillirent Daubrecq dans son bureau. » Le bouleversement des meubles et des objets prouve la violence de la lutte. Sur le tapis, nous avons trouvé ce revolver à gros calibre qui appartient à Daubrecq. Une des balles a même brisé la glace de la cheminée. Clarisse tourna vers son compagnon afin qu'il exprimât un avis. Mais M. Nicole, les yeux obstinément baissés, n'avait point bougé de sa chaise et il pétrissait les bords de son chapeau comme s'il n'eût pas encore découvert une place convenable pour l'y déposer. Braville eut un sourire, évidemment. Le conseiller de Clarisse ne lui semblait pas de première force. L'affaire est quelque peu obscure, dit-il, n'est-ce pas, monsieur? Oui, confessa monsieur Nicole, très obscure. Alors vous n'avez pas votre petite idée personnelle sur la question? Monsieur le secrétaire général, je pense que monsieur Debrecq a beaucoup d'ennemis. Ah ah, parfait! Et que plusieurs de ses ennemis, ayant intérêt à sa disparition, ont dû se liguer contre lui. Parfait, parfait, approuva Prinville avec une complaisance ironique. Parfait, tout c'est clair. Il ne vous reste plus qu'à nous donner une petite indication qui nous permette d'orienter nos recherches. Ne croyez-vous pas, monsieur le secrétaire général, que ce fragment d'ivoire ramassé par terre... Non, monsieur Nicole, non. Ce fragment provient d'un objet quelconque que nous ne connaissons pas et que son propriétaire s'empressera de cacher. Il faudrait tout au moins, pour remonter à ce propriétaire, définir la nature même de cet objet. Monsieur Nicole réfléchit, puis commença. Monsieur le secrétaire général, lorsque Napoléon Ier tomba du pouvoir... Oh, monsieur Nicole, un cours sur l'histoire de France. Une phrase, monsieur le secrétaire général, une phrase simple que je vous demande la permission d'achever. Lorsque Napoléon Ier tomba du pouvoir, la Restauration mit en demi-solde un certain nombre d'officiers qui, surveillés par la police, suspects aux autorités mais fidèles au souvenir de l'empereur, s'ingénièrent à reproduire l'image de leur idole dans tous les objets d'usage familier, tabatière, bagues, épingles de cravate, couteaux, etc. Eh bien, ce fragment provient d'une canne ou plutôt d'une sorte de casse-tête en jonc, dont la pommette est formée d'un bloc d'ivoire sculpté. En regardant ce bloc d'une certaine façon, on finit par découvrir que la ligne extérieure représente le profil du petit caporal. Vous avez entre les mains, monsieur le secrétaire général, un morceau de la pomme d'ivoire qui surmontait le casse-tête d'un demi-solde. En effet, dit Braville, qui examinait à la lumière la pièce à conviction, en effet, oui, on distingue un profil, mais je ne vois pas la conclusion. La conclusion est simple. Parmi les victimes de Daubrecq, parmi ceux dont le nom est inscrit sur la fameuse liste, se trouve le descendant d'une famille corse au servir de Napoléon, enrichi et anobli par lui, ruiné plus tard sous la Restauration. Il y a 9 chances sur 10 pour que ce descendant, qui fut il y a quelques années le chef du parti bonapartiste, soit le 5e personnage qui se dissimulait dans l'automobile. Ai-je besoin de dire son nom? Le marquis d'Albufex, murmura Braville. Le marquis d'Albufex, affirma M. Nicole. Et aussitôt, M. Nicole, qui n'avait plus son air embarrassé et ne semblait nullement gêné par son chapeau, son gant et son parapluie, se leva et dit à Braville. Monsieur le secrétaire général, j'aurais pu garder ma couverte pour moi et ne vous en faire part qu'après la victoire définitive, c'est-à-dire après vous avoir apporté la liste des 27, mais les événements pressent. La disparition de Daubrecq peut, contrairement à l'attente de ses ravisseurs, précipiter la crise que vous voulez conjurer. Il faut donc agir en toute hâte. Monsieur le secrétaire général, je vous demande votre assistance immédiate et efficace. « Mais en quoi puis-je vous aider ?» dit Prinville, impressionné par ce bizarre individu. « En me donnant dès demain sur le marquis d'Albufex des renseignements que je mettrai moi plusieurs jours à réunir. » Prinville parut hésiter et il tourna la tête vers Madame Mergy. Clarisse lui dit « Oh, je vous en conjure, accepte les services de Monsieur Nicole. C'est un auxiliaire précieux et dévoué. » Je réponds de lui comme de moi-même. Et sur quoi désirez-vous des renseignements, monsieur? Demanda Prinville. Surtout ce qui touche le marquis d'Albufex, sur sa situation de famille, sur ses occupations, sur ses liens de parenté, sur les propriétés qu'il possède à Paris et en province. Braville objecta. Au fond, que ce soit le marquis ou un autre, le ravisseur de Daubrec travaille pour nous, puisque, en reprenant la liste, il désarme Daubrec. Et qui vous dit, monsieur le secrétaire général, qu'il ne travaille pas pour lui-même? Impossible, puisque son nom est sur la liste. Et s'il l'efface? Et si vous vous trouvez alors en présence d'un second maître chanteur, plus âpre, encore plus puissant que le premier, et comme adversaire politique mieux placé que Daubrec pour soutenir la lutte? L'argument frappa le secrétaire général. Après un instant de réflexion, il déclara « Venez me voir demain à 4 heures dans mon bureau de la préfecture. Je vous donnerai tous les renseignements nécessaires. Quelle est votre adresse en cas de besoin ?»« Monsieur Nicole, 25 place Clichy. J'habite chez un de mes amis qui m'a prêté son appartement pendant son absence. » L'entrevue était terminée. M. Nicole remercia, salua très bas le secrétaire général et sortit accompagné de Mme Mergy. « Ben voilà une excellente affaire, dit-il une fois dehors en se frottant les mains. J'ai mis mes entrées libres à la préfecture et tout ce monde-là va se mettre en campagne. » Mme Mergy, moins prompte à l'espoir, objecta. « Hélas, arriverons-nous à temps? Ce qui me bouleverse, c'est l'idée que cette liste peut être détruite. » « Par qui, seigneur? Par Daubrec ?»« Non, mais par le marquis, quand il l'aura reprise. »« Ben, il ne l'a pas encore reprise. Daubrec résistera, tout au moins assez longtemps pour que nous parvenions jusqu'à lui. Pensez donc. Braville est à mes ordres. » « Et s'il vous démasque, la plus petite enquête prouvera que le sieur Nicole n'existe pas. » « Oui, mais elle ne prouvera pas que le sieur Nicole n'est autre qu'Arsène Lupin. Et puis, soyez tranquille. Braville, qui d'ailleurs est au-dessus de tout comme policier, Braville n'a qu'un but, de démolir son vieil ennemi Daubrec. Pour cela, tous les moyens lui sont bons. Il ne perdra pas son temps à vérifier l'identité d'un monsieur Nicole qui lui promet la tête de Daubrec. Sans compter que c'est vous qui m'avez amené et que, somme toute, mes petits talents n'ont pas été sans l'éblouir, donc allons de l'avant et hardiment. » Malgré elle, Clarisse reprenait toujours confiance auprès de Lupin. L'avenir lui sembla moins effroyable, et elle admit, elle s'efforça d'admettre, que les chances de sauver Gilbert n'étaient pas diminuées par cette horrible condamnation à mort. Mais il ne put obtenir de Clarisse qu'elle repartit pour la Bretagne. Elle voulait être là et prendre sa part de tous les espoirs et de toutes les angoisses. Le lendemain, les renseignements de la préfecture confirmèrent ce que Lupin et Braville savaient. Le marquis d'Albufex, très compromis dans l'affaire du canal, si compromis que le prince Napoléon avait dû lui retirer la direction de son bureau politique en France, le marquis d'Albufex ne soutenait le grand train de sa maison qu'à fort d'expédients et d'emprunts. D'un autre côté, en ce qui concernait l'enlèvement de Daubrec, il fut établi que, contrairement à son habitude quotidienne, le marquis n'avait pas paru au cercle de 6 à 7 heures et n'avait pas dîné chez lui. Il ne rentra ce soir-là que vers minuit à pied. L'accusation de M. Nicole recevait ainsi un commencement de preuve. Malheureusement, et par ses moyens personnels, Lupin ne réussit pas davantage, il fut impossible de recueillir le moindre indice sur l'automobile, sur le chauffeur et sur les 4 personnages qui avaient pénétré dans l'hôtel de Daubrec. Était-ce des associés du marquis compromis comme lui dans l'affaire? Était-ce des hommes à sa solde? On ne put le savoir. Il fallait donc concentrer toutes les recherches sur le marquis et sur ses châteaux et habitations qu'il possédait à une certaine distance de Paris, Distance que, étant donné la vitesse moyenne d'une automobile et le temps d'arrêt nécessaire, on pouvait évaluer à 150 km. Or, d'Albufex, ayant tout vendu, ne possédait ni château ni habitation en province. On se retourna vers les parents et les amis intimes du marquis. Pouvait-il disposer de ce côté de quelque retraite sûre ou emprisonner Daubrecq? Le résultat fut également négatif. Et les journées passaient, et quelles journées pour Clarisse Mergy! Chacune d'elles rapprochait Gilbert de l'échéance terrible. Chacune d'elles était une fois de moins 24 heures avant la date qu'elle avait involontairement fixée dans son esprit. Et elle disait à Lupin que la même anxiété obsédait. Encore 55 jours, encore 50, mais que pour faire en si peu de jours? Oh, je vous en prie, je vous en prie. Que pouvait-on faire, en effet? Lupin, en se remettant à personne du soin de surveiller le marquis, ne dormait pour ainsi dire plus. Mais le marquis avait repris sa vie régulière et, méfiant sans doute, ne se hasardait à aucune absence. Une seule fois, il alla dans la journée chez le duc de Montmort, dont l'équipage chassait le sanglier en forêt de Durlaine et avec lequel il n'entretenait que des relations sportives. Il n'y a pas à supposer, dit Braville, que le richissime duc de Montmort, qui ne s'occupe que de ses terres et de ses chasses, et ne fait pas de politique, se prête à la séquestration dans son château du député Daubrecq. Lupin fut de cet avis, mais comme il ne voulait rien laisser au hasard, la semaine suivante, un matin, apercevant d'Albufex qui partait en tenue de cavalier, il le suivit jusqu'à la gare du Nord et prit le train en même temps que lui. Il descendit à la station d'Aumale où d'Albufex trouva une voiture qui le conduisit vers le château de Montmort. Lupin déjeuna tranquillement, loua une bicyclette et parvint en vue du château au moment où les invités débouchaient du parc en automobile ou à cheval. Le marquis d'Albufex se trouvait au nombre des cavaliers. Trois fois, au cours de la journée, Lupin le revit qui galopait. Et il le retrouva le soir à la station où d'Albufex se rendit à cheval, suivi d'un piqueur. L'épreuve était donc décisive, il n'y avait rien de suspect de ce côté. Mais pourquoi, cependant, Lupin résolut-il de ne pas s'en tenir aux apparences? Et pourquoi, le lendemain, envoya-t-il le balu faire une enquête aux environs de Montmort? Surcroît de précaution, qui ne reposait sur aucun raisonnement, mais qui concordait avec sa manière d'agir, méthodique et minutieuse. Le surlendemain, il recevait de le balu, outre des informations sans intérêt, la liste de tous les invités, de tous les domestiques et de tous les gardes de Montmort. Un nom le frappa parmi ceux des piqueurs. Il télégraphia aussitôt, se renseigner sur le piqueur Sébastiani. La réponse de Le Balu ne tarda pas. Sébastiani, Corse, a été recommandé au duc de Montmort par le marquis d'Albufex. Il habite à une lieue du château, à un pavillon de chasse élevé parmi les débris de la forteresse féodale qui fut le berceau de la famille de Montmort. « Ça y est !» dit Lupin à Clarisse Mergy en lui montrant la lettre de Le Balu. Tout de suite, ce nom de Sébastiani m'avait rappelé que d'Albufex est d'origine corse. Il y avait là un rapprochement. Alors, votre intention? Mon intention est, si Daubrecq se trouve enfermé dans ses ruines, d'entrer en communication avec lui. Il se défiera de vous. Non! Ces jours-ci, sur les indications de la police, j'ai fini par découvrir les deux vieilles dames qui ont enlevé votre petit Jacques à Saint-Germain et qui, le soir même, voilé, l'ont ramené à Neuilly. Ce sont deux vieilles filles, les cousines de Daubrec, qui reçoivent de lui une petite rente mensuelle. J'ai rendu visite à ces demoiselles Rousselot. Rappelez-vous leur nom et leur adresse, 134 bis rue du Bac. Je leur ai inspiré confiance, je leur ai promis de retrouver leur cousin et bienfaiteur, et l'aînée, Euphrasie Rousselot, m'a remis une lettre par quoi elle supplie Daubrec de s'en rapporter absolument au sieur Nicole. Vous voyez que toutes les précautions sont prises. Je pars cette nuit.
Nous partons, dit Clarisse.
Vous ? Oh, est-ce que je peux vivre ainsi dans l'inaction, dans la fièvre ? Et elle murmura. Ce n'est plus les jours que je compte, les 38 ou 40 jours au plus qui nous restent, ce sont les heures.
Lupin sentit en elle une résolution trop violente pour qu'il essayât de la combattre. À 5 heures du matin, ils s'en allaient tous deux en automobile. Grognard les accompagnait. Afin de ne pas éveiller les soupçons, Lupin choisit comme quartier général une grande ville. D'Amiens, où il installa Clarisse, il n'était séparé de Montmort que par une 30aine de kilomètres. Vers 8 heures, il retrouva le balut non loin de l'ancienne forteresse, connue dans la région sous le nom de Mortepierre, et dirigé par lui, il examinait la lieue. Sur les confins de la forêt, la petite rivière du Ligier, qui s'est creusée à cet endroit une vallée très profonde, forme une boucle qui domine l'énorme falaise de Mortepierre.
Oh, rien à faire de ce côté, dit Lupin. La falaise est abrupte, haute de 60 ou 70 mètres, et la rivière l'enserre de toutes parts.
Ils trouvèrent plus loin un pont qui aboutissait au bas d'un sentier dont les lacets les conduisirent parmi les sapins et les chênes jusqu'à une petite esplanade où se dressait une porte massive, bardée de fer, hérissée de clous et flanquée de deux grosses tours.
« C'est bien là, dit Lupin, que le piqueur Sébastien y habite. »
« Oui, fit le balut, avec sa femme dans un pavillon situé au milieu des ruines.
Oh, j'ai appris en outre qu'il avait 3 grands-fils et que tous 3 étaient soi-disant partis en voyage. » Et cela précisément le jour où l'on enlevait Daubrec.
Oh, oh, fit Lupin, la coïncidence vaut la peine d'être retenue. Il est bien probable que le coup fût exécuté par ces gaillards-là et par le père.
À la fin de l'après-midi, Lupin profita d'une brèche pour escalader la courtine à droite des tours. De là, il put voir le pavillon du garde et les quelques débris de la vieille forteresse. Ici, un pan de mur où se devine le marteau d'une cheminée, plus loin, une citerne, de ce côté, l'arcade d'une chapelle, de cet autre, un amoncellement de pierres éboulées. Sur le devant, un chemin de ronde borde la falaise, et à l'une des extrémités de ce chemin, il y a les vestiges d'une formidable donjon presque rasé au niveau du sol. Le soir, Lupin retourna près de Clarisse Mergy. Et dès lors, il fit la navette entre Amiens et Mortepierre, laissant Grognard et le balut en observation permanente. Et 6 jours passèrent. Les habitudes de Sébastiani semblaient uniquement soumises aux exigences de son emploi. Il allait au château de Montmort, se promenait dans la forêt, relevait les passages des bêtes, faisait des rondes de nuit. Mais le 7e jour, ayant su qu'il y avait chasse et qu'une voiture était partie le matin pour la station d'Aumale, Lupin se posta dans un groupe de lauriers et de buis qui entouraient la petite esplanade devant la porte. À 2 heures, il entendit les aboiements de la meute. Ils se rapprochèrent, accompagnés de clameurs, puis s'éloignèrent. Il les entendit de nouveau vers le milieu de l'après-midi, moins distincts, et ce fut tout. Mais soudain, dans le silence, un galop de cheval parvint jusqu'à lui, et quelques minutes plus tard, il vit deux cavaliers qui escaladaient le sentier de la rivière. Il reconnut le marquis d'Albufex et Sébastiani. Arrivés sur l'esplanade, tous deux mirent pied à terre, tandis qu'une femme, la femme du piqueur sans doute, ouvrait la porte. Sébastiani attacha les brides des montures à des anneaux scellés dans une borne qui se dressait à trois pas de Lupin, et en courant, il rejoignit le marquis. La porte se ferma derrière eux. Lupin n'hésita pas, et bien que ce fût encore en plein jour, comptant sur la solitude de l'endroit, il se hissa au creux de la brèche. Passant la tête, il aperçut les deux hommes et la femme de Sébastiani qui se hâtaient vers les ruines du donjon. Le garde souleva un rideau de lierre et découvrit l'entrée d'un escalier qu'il descendit, ainsi que d'Albufex, laissant sa femme en faction sur la terrasse. Comme il ne fallait pas songer à s'introduire à leur suite, Lupin regagna sa cachette. Il n'attendit pas longtemps avant que la porte se rouvrit. Le marquis d'Albufex semblait fort en courroux. Il frappait à coups de cravache la tige de ses bottes et mâchonnait des paroles de colère que Lupin discerna quand la distance fut moins grande. « Oh, le misérable, je l'y forcerai bien. Ce soir, tu entends, Sébastiani, ce soir à 10 heures je reviendrai et nous agirons à l'animal. » Sébastiani détachait les chevaux. D'Albufex se tourna vers la femme. « Que vos fils fassent bonne garde. Si on essayait de le délivrer, tant pis pour lui, la trappe est là. Je peux compter sur eux. Bon, « comme sur leur père, monsieur le marquis, affirma le piqueur. Ils savent ce que monsieur le marquis a fait pour moi et ce qu'il veut faire pour eux. Ils ne reculeront devant rien. » À cheval, dit d'Albufex, et rejoignons la chasse. Ainsi donc les choses s'accomplissaient comme Lupin l'avait supposé. Au cours de ces parties de chasse, d'Albufex, galopant de son côté, poussait une poigne jusqu'à Mortepierre, sans que personne pût se douter de son manège. Sébastiani, qui pour des raisons anciennes, et d'ailleurs inutiles à connaître, lui était dévoué corps et âme, Sébastiani l'accompagnait et ils allaient voir ensemble le captif que les trois fils du piqueur et sa femme surveillaient étroitement. « Ben voilà où nous en sommes, » dit Lupin à Clarisse Mergy, lorsqu'il eut retrouvé dans une auberge des environs. « Ce soir, à 10 heures, le marquis fera subir à Daubrec l'interrogatoire. Un peu brutal, mais indispensable, auquel je devais procéder moi-même. » « Et Daubrec livrera son secret, » dit Clarisse, déjà bouleversée. « Oh, oui, j'en ai peur. »« Alors ?»« Alors ?» répondit Lupin, qui paraissait très calme. « Alors j'hésite entre deux plans. Ou bien empêcher cette entrevue. »« Mais comment ?»« Ben, en devançant d'Albufex. À 9 heures, Grognard, le Balu et moi, nous franchissons les remparts. Envahissement de la forteresse, assaut du donjon, désarmement de la garniture, le tour est joué. Daubrec est à nous. » Oui, mais si toutefois les fils de Sébastiani ne l'ont pas jeté par cette trappe à laquelle le marquis a fait allusion. Aussi, dit Lupin, ai-je bien l'intention de ne risquer ce coup de force qu'en désespoir de cause, et au cas où mon autre plan ne serait pas réalisable. Et cet autre plan? Bien, c'est d'assister à l'entrevue, si Daubrec ne parle pas. Cela nous donne le loisir nécessaire pour préparer son enlèvement dans des conditions plus favorables. Et s'il parle, si on le contraint à révéler l'endroit où se trouve la liste des 27, je saurai la vérité en même temps que d'Albufex, et je jure Dieu que j'en tirerai parti avant lui. Oui, prononça Clarisse. « Mais par quel moyen comptez-vous assister ?
Oh, je ne sais pas encore, avoua Lupin. Cela dépend de certains renseignements que doit m'apporter le Balu et de ceux que je réunirai moi-même. Il sortit de l'auberge et n'y revint qu'une heure plus tard, à la nuit tombante. Le Balu les rejoignit. « Tu as le bouquin ?» dit-il à son complice. « Oui, pas trop. C'était bien ce que j'avais vu chez le marchand de journaux d'Aumale. Je l'ai eu pour 10 sous. Donne. » Le Balu lui donna une vieille brochure usée, salie, sur laquelle on lisait « Une visite à Mortepierre, 1824, avec dessins et plans. » Tout de suite, Lupin chercha le plan du donjon. « Oh, c'est bien cela, » dit-il. Il y avait au-dessus du sol 3 étages qui ont été rasés et, au-dessous, creusés dans le roc même, 2 étages dont l'un a été envahi par les décombres et dont l'autre... « Mais tenez, voilà où gît notre ami Daubrec. Le nom est significatif, la salle des tortures. Pauvre ami. Entre l'escalier et la salle, 2 portes. Entre ces 2 portes, un réduit où se tiennent évidemment les 3 frères, le fusil à la main. Donc il vous est impossible de pénétrer là sans être vu. Impossible à moins de passer par en haut, par l'étage écroulé, et de chercher une voie à travers le plafond. Mais oh, c'est bien hasardeux. » Il continuait à feuilleter le livre. Clarisse lui demanda « Il n'y a pas de fenêtre à cette salle ?»« Si, dit-il, d'en bas de la rivière, j'en arrive, on aperçoit une petite ouverture qui d'ailleurs est marquée sur cette carte. Mais, n'est-ce pas, il y a 50 mètres de hauteur à pic et même la roche surplombe au-dessus de l'eau, donc impossible également. » Il parcourait certains passages du livre. Un chapitre le frappa, intitulé « La tour des 2 amants ». Il en lut les premières lignes. Jadis, le donjon était appelé par les gens du pays « La tour des 2 amants » en souvenir d'un drame qui l'ensanglanta au Moyen-Âge. Le comte de Mortepierre, ayant eu la preuve de l'infidélité de sa femme, l'avait enfermé dans la chambre des tortures. Elle y passa 20 ans, paraît-il. Une nuit, son amant, le sire de Tancarville, eut l'audace folle de dresser une échelle dans la rivière et de grimper ensuite le long de la falaise jusqu'à l'ouverture de sa chambre. Ayant scié les barreaux, il réussit à délivrer celle qu'il aimait et la redescendit avec elle à l'aide d'une corde. Ils parvinrent tous deux au sommet de l'échelle que des amis surveillaient, lorsqu'un coup de feu partit du chemin rond et atteignit l'homme à l'épaule. Les 2 amants furent lancés dans le vide. Il y eut un silence après cette lecture, un long silence où chacun reconstituait la tragique évasion. Ainsi donc, 3 ou 4 siècles auparavant, risquant sa vie pour sauver une femme, un homme a tenté ce tour de force inconcevable. Il serait parvenu à le réaliser sans la vigilance de quelques sentinelles attirées par le bruit. Un homme avait osé cela. Un homme avait fait cela. Lupin leva les yeux sur Clarisse. Elle le regardait, mais de quel regard éperdu et suppliant. Regard de mère qui exigeait l'impossible et qui eut tout sacrifié pour le salut de son fils. « Le Balu, dit-il, cherche une corde solide, très fine, afin que je puisse la rouler à ma ceinture et très longue, 50 ou 60 mètres. Toi, grognard, mets-toi en quête de 3 ou 4 échelles que tu attacheras bout à bout. Hein, mais qu'est-ce que vous dites, patron ? S'écrièrent les 2 complices. Quoi ? Vous voulez ? Mais c'est de la folie ! Une folie, pourquoi ? C'est qu'à notre affaire, je puis bien le faire. Mais il y a 100 chances contre une pour que vous vous cassiez la tête. Tu vois bien, le Balu, qu'il y a une chance pour que je ne me la casse pas. Voyons, patron. Ah, c'est causé, les amis. Et rendez-vous dans 1 heure au bord de la rivière.
Les préparatifs furent longs. On trouva difficilement de quoi former l'échelle de 15 mètres qui pouvait atteindre le premier ressaut de la falaise, et il fallut beaucoup d'efforts et de soins pour en rejoindre les différentes parties les unes aux autres. Enfin, un peu après 9 heures, elle fut dressée au milieu de la rivière et calée par une barque dont le devant était engagé entre deux barreaux et dont l'arrière s'enfonçait dans la berge. La route qui suit le vallon étant peu fréquentée, personne ne dérangea les travaux. La nuit était obscure, le ciel lourd de nuages immobiles. Lupin donna ses dernières recommandations à le balu à Grognard, et il dit en riant: « On ne peut pas s'imaginer comme ça m'amuse de voir la tête de Daubrec pendant qu'on va le scalper et lui découper les lanières de peau. Oh, vrai, ça vaut le voyage. » Clarisse avait pris place également dans la barque. Il lui dit: « Bon, à bientôt, et surtout ne bougez pas. Quoi qu'il arrive, pas un geste, pas un cri. » « Mais il peut donc arriver quelque chose, dit-elle. Dame, souvenez-vous du sire de Tancarville. C'est au moment même où il arrivait au but, sa bien-aimée dans les bras, qu'un hasard le trahit. Mais soyez tranquille, tout se passera bien. » Elle ne fit aucune réponse. Elle lui saisit la main et la serra fortement entre les siennes. Il mit le pied sur l'échelle et s'assura qu'elle ne le remuait pas trop. Puis il monta. Très vite, il parvint au dernier échelon. Là seulement commençait l'ascension dangereuse, ascension pénible au début à cause de la pente excessive, et qui devint à mi-hauteur la véritable escalade d'une muraille. Par bonheur, il y avait de place en place de petits creux où ses pieds pouvaient se poser, et des cailloux en saillie où ses mains s'accrochaient. Mais deux fois, ces cailloux cédèrent. Il glissa, et c'est deux fois là, il crut bien que tout était perdu. Ayant rencontré un creux profond, il s'y reposa. Il était exténué, et tout prêt à renoncer à l'entreprise. Il se demanda si réellement elle valait la peine qu'il s'exposât à de tels dangers. « Bigre, pensa-t-il, m'est avis que tu flanches, mon vieux Lupin. Allez, toi, renoncer à l'entreprise, allons. » Alors Daubrec va susurrer son secret. Le marquis se ramène de la liste. Et Lupin se retournera bredouille et Gilbert. La longue corde qu'il avait attachée autour de sa taille, lui imposant une gêne et une fatigue inutiles, Lupin en fixa simplement une des extrémités à la boucle de son pantalon. La corde se déroulerait ainsi tout le long de la montée, et il s'en servirait au retour comme d'une rampe. Puis il s'agrippa de nouveau aux aspérités de la falaise et continua l'escalade, les doigts en sang, les ongles meurtris. À chaque moment, il s'attendait à la chute inévitable. Ce qui le décourageait, c'était de percevoir le murmure des voix qui s'élevaient de la barque, murmure si distinct qu'il ne semblait pas que l'intervalle s'accrût entre ses compagnons et lui. Et il se rappela le seigneur de Tancarville, seul aussi parmi les ténèbres, et qui devait frissonner au fracas des pierres détachées et bondissantes. Comme le moindre bruit se répercutait dans le silence profond, qu'un des gardes de Daubrec épia l'ombre du haut de la tour des deux amants, et c'était là le coup de feu, la mort. Il grimpait depuis si longtemps qu'il finit par s'imaginer que le but était dépassé. Sans aucun doute, il avait obliqué à son insu vers la droite ou vers la gauche, et il allait aboutir au chemin de ronde. Dénouement stupide! Aussi bien est-ce qu'il pouvait en être autrement d'une tentative que l'enchaînement si rapide des faits ne lui avait pas permis d'étudier et de préparer. Furieux, il redoubla d'efforts, s'éleva de plusieurs mètres, glissa, reconquit le terrain perdu, empoigna une touffe de racines qui lui resta dans la main, glissa de nouveau et, découragé, il abandonnait la partie quand, soudain, se raidissant en une crispation de tout son être, de tous ses muscles et de toute sa volonté, il s'immobilisa. Un bruit de voix semblait sortir du roc qui l'étreignait. Il écouta. Cela se produisait vers la droite. Ayant renversé la tête, il crut voir un rayon de clarté qui traversait les ténèbres de l'espace. Par quel sursaut d'énergie, par quels mouvements insensibles, réussit-il à se déplacer jusque-là, il ne se rendit pas un compte exact. Mais brusquement, il se trouva sur le rebord d'un orifice assez large, profond de 3 mètres au moins, qui creusait la paroi de la falaise comme un couloir, et dont l'autre extrémité, beaucoup plus étroite, était fermée par 3 barreaux. Lupin rampa, sa tête parvint au barreau, il vit